Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, la revue La Déferlante, invitée de la Maison des Associations à Rennes, un reportage de Corentin sur la nouvelle expo temporaire de l'Espace des Sciences. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, la rediffusion de l'interview sur le film Un pays de papier, à voir bientôt à la télé, et puis une recommandation, les Journées européennes des métiers d'art à vivre notamment à Rennes. Bienvenue dans La Reine. Tous les jours, on commence cette émission d'information locale avec une info du jour que je sélectionne pour vous parmi d'autres, croisées dans la presse locale. On annonce aujourd'hui une rencontre qui est organisée à la Maison des Associations de Rennes. Rendez-vous ce mardi 2 avril à 18h. Vous avez encore le temps d'y aller en pédalant vite ou en trottinant. Et c'est le sujet des droits reproductifs qui sera exploré en compagnie de la revue féministe La Déferlante, puisque avorter, c'était le thème du numéro de mars de cette revue trimestriel, un projet qui a été lancé en mars 2021 et qui compte aujourd'hui 9 salariés, 10 000 abonnés et 5 000 exemplaires vendus en moyenne par numéro. Ce mardi soir, si vous arrivez à temps, vous retrouverez Marie Barbier, co-rédactrice en chef de La Déferlante. Également autour de la table, Louise Quignon, elle est photographe indépendante et iconographe pour cette revue. Audrey Guillet est, elle, journaliste indépendante rennaise. Elle a écrit récemment un article sur le thème « À Rennes, un espace pour avoir le choix ». Et enfin, on retrouvera Amélie Jouot, médecin au centre IVG du CHU de Rennes, et Alice Pasturel, elle conseillère au planning familial d'Ille-et-Vilaine. La discussion, elle s'annonce passionnante. À l'heure où le président de la République nous parle de réarmement démographique, où l'obsession d'une politique nataliste va à rebours de décennies de combats féministes pour le droit à disposer de son corps, à l'heure où, dans de nombreux pays, le recours à l'IVG est à nouveau entravé, voire interdit. C'est un rendez-vous qui est gratuit. Le détail et les inscriptions, ça se passe sur le site mda-rennes.org. Allez, après cette info du jour, on passe à un reportage. Et c'est un reportage réalisé par Corentin Petitclerc, volontaire en service civique à la radio, qui nous fait découvrir la nouvelle exposition temporaire de l'Espace des Sciences au sein des Champs Libres. L'arbre de la petite graine à la vieille branche, c'est le nom de cette expo, un parcours accessible à partir de 6 ans. Les spectateurs vont en apprendre plus sur les arbres qui nous entourent et auxquels nous ne prêtons parfois pas assez attention. Pourtant, comme nous, cet être vivant naît, grandit, se reproduit et meurt. Et comme nous, il vit en interaction avec les autres êtres vivants qui partagent son habitat. Aperçu tout de suite donc avec un reportage, et on précise que les tarifs pour cette exposition vont de la gratuité à 7 euros.
L'exposition L'arbre de la petite graine à la vieille branche était inaugurée ce mardi 2 avril à l'Espace des Sciences des Champs Libres. Je me suis rendu à son inauguration pour découvrir de quoi était composée cette expo. La rencontre a débuté par quelques mots de Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences, pour rappeler que ce 2 avril était aussi l'anniversaire de l'Espace des Sciences, qui a maintenant 40 ans.
Pour fêter ces 40 ans, on a prévu un petit cycle de 4 conférences, et la première, c'est ce soir avec Alain Aspect sur la physique quantique. Et ça m'a touché aussi parce que lorsque je lui ai écrit un petit mot, il m'a dit non, je viens à l'Espace des Sciences, c'est un lieu merveilleux. Il était déjà venu en faire une conférence sur la physique quantique, mais ça fait toujours plaisir qu'un prix Nobel accepte de donner son nom, son image, et puis vienne partager les connaissances sur le monde de l'infiniment petit. Donc ça, c'est ce soir à 20h30. Et aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est l'ouverture de l'exposition Arbre, qui ouvre tout à l'heure à midi. Et comme on le disait en plaisantant avec Christelle, là, juste en arrivant, c'est bien de parler un peu d'environnement après avoir évoqué l'intelligence animale, humaine, artificielle, de parler d'environnement. Les arbres, en fait, ils nous entourent, on a besoin d'eux, on ne les connaît pas bien. Ils sont extrêmement utiles lorsqu'il fait très chaud. Ça marque le grand public durant la canicule. C'est bien d'être sous un arbre. Il y a extrêmement de choses à découvrir sur les arbres. C'est un monde extrêmement merveilleux, fascinant aussi. Les poètes, les peintres ont été inspirés par ce monde des forêts. Et puis nous, à l'Espace des Sciences, bah, comme d'habitude, on aime bien qu'il y ait des démonstrations, des manips, des découvertes. Donc il y a des animations, il y a des maquettes. Et cette exposition, c'est une réalisation d'un centre de culture scientifique en Suisse, à Lausanne exactement. Et tout ça a été scénographié, animé, décoré et valorisé par toute l'équipe de l'Espace des Sciences, ce qui a fait, comme d'habitude, je pense, un super travail, parce que l'expo, elle est vraiment belle, quoi, vous allez voir.
Durant l'exposition, des animations seront organisées tous les jours afin d'en apprendre plus sur la vie des arbres et également dans un but de sensibilisation.
Et tout ça, en fait, ça permet d'accompagner le public dans vraiment le côté faire attention aux arbres, faire attention à ce qu'il y a autour de nous, en l'identifiant, mais ça peut être aussi en le mesurant, par exemple. Il y a des petits trucs et astuces, comme la croix de bûcheron, ça s'appelle. Alors, c'est le théorème de Thalès, mais si on le dit comme ça, ça fait un peu peur. Mais juste la croix du bûcheron, en fait, il faut prendre un bâton à peu près de la taille de notre bras, le positionner comme ça, à peu près à angle droit devant nous. Et donc, si on arrive à mettre le haut de l'arbre par rapport à haut du bâton, le haut du bâton et le bas de l'arbre par rapport au bas du bâton, en se reculant, évidemment, eh bien, la distance qui nous sépare de l'arbre, ça correspond à la hauteur de l'arbre. Donc, ce sont des petits trucs comme ça, les clés de détermination, la croix du bûcheron, qui permet de faire attention à tous ces arbres qui sont autour de nous. Il y a autre chose qui peut permettre de déterminer un arbre, d'ailleurs, et qu'on voit beaucoup en ce moment, ce sont les bourgeons. On est en plein dedans en ce moment. Et il y a aussi des clés de détermination des bourgeons. En plein hiver, on peut aussi identifier un arbre. Du coup, pas grâce à sa silhouette et pas grâce à ses feuilles si c'est un feuillu, mais grâce à l'écorce ou grâce aux bourgeons. On va aussi inciter à se renseigner éventuellement sur des arbres un peu spectaculaires. Là, on est face à un séquoia géant qui est aux États-Unis, qui est dans les records, on va dire, des arbres. C'est celui qui est considéré comme le plus imposant, le General Sherman en Californie. Et il fait à peu près plus de 80 mètres de hauteur et 2200 ans à peu près. Alors c'est pas le recordman, il y a plus grand, il y a plus vieux, mais par contre il a un tronc qui représente à peu près 1487 mètres cubes de bois. Et ça c'est énorme, pour se rendre compte un petit peu, ça fait à peu près 500 baleines en termes de volume. Alors évidemment on va pas forcément demander au public d'aller aux États-Unis pour voir cet arbre. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on en a aussi à Rennes, des séquoias. On en a dans le parc du Thabor. Et il y a une carte que je vous incite aussi à relayer, faite par Rennes Métropole, et qui est sur leur site internet, où il y a des arbres qui sont recensés, et dont vous allez trouver l'espèce et la position. Pour certains, s'ils ont quelque chose de particulier, vous allez trouver aussi éventuellement la taille et l'âge. Et du coup, pour finir, regarder tous les arbres qui sont autour de nous et qui ont parfois des formes bizarres, parce que la représentation que vous aviez d'un arbre au début et les arbres qu'on a mis là, ce sont des arbres parfaits, entre guillemets, on va dire, avec un joli tronc, des feuilles qui s'étalent en haut. Mais les arbres au quotidien, finalement, ils ont parfois un petit peu des gueules cassées, comme celui-ci, parce qu'un arbre, eh bien, va devoir s'adapter aux contraintes qu'il va trouver autour de lui. Le vent, les tempêtes, les terrains qui peuvent s'affaisser. Et du coup, il va devoir compenser. Donc c'est pas un être figé qui va juste pousser comme ça en hauteur tout droit, c'est un être qui va s'adapter à ce qu'il se passe autour de lui. Et là, alors, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais peut-être qu'il y a eu une tempête, la foudre, peut-être qu'il a été élagué d'un côté trop fortement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il essaye de retrouver son équilibre, de repartir comme ça vers le ciel, mais en équilibrant pour ne pas tomber. Dans les animations, que ce soit les animations groupes, les animations grand public du week-end ou du mercredi ou en semaine, on va à chaque fois essayer d'avoir cette démarche d'inciter à observer les arbres, à les identifier, y faire attention et pourquoi pas, en sortant du bâtiment, justement, mettre à profit les nouvelles informations qu'on a apprises pour observer le cerisier à côté des champs libres ou ceux qui sont derrière à côté de la MC.
Après ces présentations, place à une visite durant laquelle j'ai pu découvrir de quoi était composée cette exposition.
Tout ce qu'on y raconte, c'est des choses que finalement la majorité des gens a vues ou a au moins entendu parler. C'est juste que là, on les reformule et pour inciter, comme disait Frédéric tout à l'heure sur l'animation, à vraiment prendre le temps d'observer quand ils vont sortir du bâtiment et qu'ils vont se retrouver dans leur jardin, dans un parc en ville ou à la campagne. Donc le titre de l'exposition, de la petite graine à la vieille branche, ça veut un peu tout dire. En fait, on va parler dans cette exposition de la vie de l'arbre. Donc il y a la majorité de l'exposition qui est sur la biologie de l'arbre et quelques modules supplémentaires sur les interactions avec l'homme et puis sur les échanges et l'écosystème de l'arbre. Donc déjà, pour commencer, donc, de la petite graine à la vieille branche, on commence par la petite graine. Et donc ce dispositif ici permet aux visiteurs donc, d'essayer de raccrocher quel arbre, à quel arbre correspond quelle graine ou quel fruit. Et l'idée, c'est que donc en appuyant sur le bouton, il va déclencher derrière une information qui va parler de, par exemple ici, là je parle des graines d'érable, qui va donner l'information derrière sur l'érable sycomore, des informations un peu plus détaillées sur ce que c'est que ce type d'arbre, et puis ensuite la graine, le fait qu'il est intéressant qu'elle a des petites ailes pour ensuite se retrouver dispersée en fait. Un peu plus loin. Donc là, différentes informations sur vraiment les graines et les arbres, pour certains connus quand même, mais l'idée c'est de se réapproprier quel arbre, quel type de graine. En fait, l'idée, en tournant la manivelle, c'est de faire apparaître petit à petit la croissance des racines et la croissance de l'arbre, et montrer qu'en fait ça se fait en différentes étapes. En fait, il y a la croissance primaire et la croissance secondaire, et même une troisième période qu'on peut appeler, c'est la dormance. En fait, au moment de la croissance primaire, on peut considérer que l'arbre va grandir. Et la croissance secondaire, ça va être le moment où l'arbre s'épaissit. Ça se fait en deux temps. Et ensuite, la période, l'arbre va rentrer en dormance et va être au repos avant de réattaquer la saison suivante, en fait, avec la production de bourgeons. Ici, par exemple, on a parlé, Frédéric montrait tout à l'heure, des tranches d'arbres. Ici, on en a différents types. L'idée pour le public, c'est d'essayer de retrouver ce qui a pu bien se passer en fait, sur ces tranches d'arbres. Certaines sont presque, on va dire, habituelles dans l'idée où on voit les cernes de croissance de l'arbre. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait symétrique complètement sur l'ensemble de la coupe, ou qu'il y a des espèces de taches, on ne sait pas trop si c'est de l'eau, de la peinture, on se demande ce qui s'est passé. Donc en fait, pour le visiteur, si j'explique le principe, l'idée c'est de retourner pour avoir l'information. Donc là, en gros, on leur pose la question, selon vous, quelle est l'histoire de l'arbre? Qu'est-ce qu'on peut en savoir? Puisque quand on coupe un arbre, on peut apprendre plein de choses sur sa vie. Et donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Donc le visiteur ici doit essayer de réfléchir et se demander, tiens, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un trou? Pourquoi il y a eu des taches? Là, l'idée sur cette manipulation-là, c'est qu'on va tourner là, les différents rouleaux et mettre en correspondance différents types de fleurs. Et ça nous donne une information en face. Donc, soit on n'a pas associé la bonne fleur femelle avec la bonne fleur mâle. Du coup, on a un message d'erreur. Et si on l'associe, là, on va pouvoir découvrir donc, que, par exemple, le tilleul, c'est une espèce hermaphrodite. Donc, du coup, une fleur qui peut être aussi bien mâle que femelle. On a des espèces qui vont avoir sur le même arbre des fleurs mâles et des fleurs femelles. Et on a des espèces où on va avoir un individu avec des fleurs mâles et un individu avec des fleurs femelles. On a parlé des racines aussi tout à l'heure. Je vous disais, hein, selon le type de sol, les racines ne vont pas forcément s'organiser de la même façon. Là, pour le public, le dispositif, c'est des serrures et essayer de retrouver quelle serrure ouvre quelle porte pour ensuite voir derrière. Alors, je crois que c'est celle-là, si je ne me trompe pas. Hop! Quand on ouvre, en fait, on voit que le système racinaire, en fait, il va avoir une forme qui va ressembler plutôt ici à une brosse de toilette, ou alors tout simplement un système plutôt en peigne. Donc ça, ça va vraiment dépendre du type d'arbre et du type de sol, en fait. Et on ne peut pas parler d'arbre sans parler de carbone, qui est donc le constituant majeur de la planète. Donc l'idée, c'est de reparler du carbone parce qu'il va nous être bien utile après pour pouvoir parler de la photosynthèse de l'autre côté. Donc on va pouvoir faire le tour. Le bois est constitué pour moitié de carbone. Donc c'est un dispositif qui est assez original, on va dire. L'idée, c'est de voir quels éléments sont nécessaires pour pouvoir produire de la photosynthèse. Donc on a déjà besoin d'énergie lumineuse. En fait, l'arbre va capter du CO2 dans l'atmosphère et va l'associer avec de l'eau puisée dans le sol, par les racines. Et ces deux-là associés, par l'intermédiaire donc de l'énergie lumineuse, va se transformer en sucre et en dioxygène. Et c'est les sucres qui vont être fabriqués au cours de cette photosynthèse et qui vont permettre de nourrir l'arbre, entre guillemets. Et c'est ça qui va permettre ensuite de fabriquer du bois. Donc là, le dispositif, l'idée, c'est d'ajouter les différents ingrédients dont on a parlé. Donc déjà, amener de la lumière,
peut se poser la question s'il y a bien une petite fille dans la boîte, mais elle n'est pas dans la boîte, hein, c'est un dispositif interactif. Donc on a de la lumière, on voit ici les deux autres éléments nécessaires, de l'eau et du gaz carbonique. Donc pour le gaz carbonique, on va pouvoir souffler ici. Et ensuite, on va ajouter de l'eau. Mais l'idée, c'est d'avoir la recette pour la fabrication du bois. Donc là, elle a coché les différents constituants, on a bien tout. On va dire qu'elle mélange. Bon, ça ne se passe pas tout à fait comme ça en vrai. Hein.
C'est exactement.
Pas tout à fait.
Et là, elle a fabriqué du sucre.
Et donc, elle a fabriqué
du sucre. L'oxygène qui est passé en
ce moment. L'oxygène est passé là. Elle a fabriqué du sucre. Et donc, voilà, le sucre qui est fabriqué à ce moment-là, c'est du glucose. Et qui ensuite, par réaction chimique, voilà, plus complexe, va fabriquer de la lignine et de la cellulose pour fabriquer du bois. Et donc, normalement, si on va au bout de la manip, j'espère que ça marche. Et voilà, on a fabriqué notre morceau de bois. C'est un dispositif qui a été fait par Lausanne, un dispositif plutôt artistique. Donc c'est une cabine noire à l'intérieur de laquelle vous rentrez en utilisant ce boîtier qui va permettre d'éclairer avec une lumière rouge ou avec une lumière bleue. Et à l'intérieur, vous avez des images, des dessins qui sont avec une encre bleue ou avec une encre rouge. Et selon la lumière que vous allez utiliser, vous allez faire apparaître plutôt un dessin que l'autre. Les deux dessins sont superposés avec les deux encres. Et pareil au niveau des petits textes. En fait, l'idée ici, c'est de parler des bienfaits, on va dire, et puis des petits aspects inconvénients de l'arbre. Donc, si j'en prends un au hasard, par exemple, les racines qui vont permettre de bien stabiliser l'arbre, qui vont permettre, en cas d'inondation, de retenir les terrains, mais qui, par contre, en ville, ça va poser problème parce que la racine, sous le goudron, va déformer le goudron et peut-être poser problématique pour les services de voirie, par exemple, ou pour les canalisations. C'est un dispositif qui est assez sympa et qui met en avant chaque fois des aspects positifs et des aspects un peu plus embêtants, plus que négatifs, plus embêtants des arbres. On a des languettes donc, de différents types de bois et l'idée c'est de venir taper dessus. Déjà, rien qu'en faisant ça, alors qu'elles font toutes la même longueur, la même épaisseur, on se rend compte qu'on a vraiment des sons différents. Et donc ce dispositif-là, on va inviter les gens à venir taper dessus pour déjà réaliser que chaque essence résonne différemment. Et on va inciter les gens à essayer de les classer du plus grave au plus aigu. Ce qui est un exercice pas si facile que ça, quand on n'est pas habitué. C'est surtout pour amener derrière l'idée que le bois est utilisé, notamment côté résonance, pour les instruments de musique. Et que là, il y a plein de choses à raconter sur pourquoi on va choisir telle ou telle essence selon si c'est un instrument à cordes, si c'est un instrument à vent.
L'exposition L'Arbre, ça se passe à l'Espace des sciences des Champs Libres jusqu'au 1er septembre 2024. C'est une exposition ludique et interactive qui permet de découvrir l'arbre sous plusieurs aspects, sa biologie, sa diversité, mais aussi sa coexistence avec l'homme. En complément de l'exposition, deux conférences dédiées au sujet se dérouleront au Champ Libre dans le cadre des Mardis de l'Espace des Sciences. Ça se passe les mardis 16 avril et 21 mai à 20h30.
Looking under the bus stop, every day her endless smile into her.
Lenny avec le titre All Over His Mind sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio. Le premier extrait d'un album à paraître l'année prochaine et ce sera le premier disque pour Lenny, trio pop Tourangeau. Vous écoutez La Reine, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Elle s'écoute du lundi au vendredi sur le 94.0, mais aussi en ligne sur canalb.fr. Et cette émission, eh bien, elle vous tend son micro. Si vous avez une action ou un événement à relayer auprès des auditeurs, tant que ce n'est pas visé uniquement lucrative, on va dire, et puis si ça s'inscrit dans le champ de l'information locale, qu'il s'agisse de lutte environnementale, d'action culturelle, de vie associative, étudiante, n'hésitez pas à m'en faire part par email à l'adresse lucie@canalb.fr et je reprends contact ensuite avec vous pour vous proposer une interview en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain, et on peut aussi l'évoquer sous forme de recommandation. Pour le moment, on continue l'émission avec la rediffusion d'une interview qui est passée dans cette même émission le 1er février dernier. Marion Boé et Mélanie Leverger, bonjour.
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 Je vous présente Marion Boé, vous êtes la réalisatrice du film dont on va parler, Un pays de papier, qui est produit par les films de la pluie. Un film dont vous êtes le personnage principal, Mélanie Leverger, vous êtes avocate à Rennes. D'abord, une question pour Marion. Le point de départ à ce nouveau film, c'est quoi un intérêt pour la question de ces mineurs non accompagnés qu'on va rencontrer dans le film?
Oui, exactement. Je voulais parler des mineurs non accompagnés, de comment ils étaient pris en charge en France. Et puis, j'avais eu une première idée de faire ça dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance où ils sont pris en charge. Puis finalement, le département avait refusé parce que c'était trop politique. Et en faisant mon enquête et en parlant avec des éducateurs et des éducatrices, on m'a parlé d'une avocate à Rennes, voilà, du coup j'ai cherché, j'ai pris rendez-vous avec Mélanie, et au cours de l'entretien avec elle, j'ai vu tout son engagement, et je me suis dit que c'était vraiment intéressant à travers elle de comprendre le parcours de ces jeunes et les défis auxquels ils font face.
C'est votre deuxième film que vous signez là et qui va donc être projeté en avant-première ce week-end. Vous avez tout de suite accepté la proposition, Mélanie Leverger, d'être suivie par une caméra?
Non.
Il a fallu vous convaincre?
Oui, ça a été un petit peu long, je crois. Mais c'est Marion qui peut en parler.
Ça n'a pas été si long, mais oui. Puis tout au long du tournage, il a fallu quand même que réinstaller la confiance de temps en temps parce que c'était pas forcément facile pour Mélanie d'être en première ligne comme ça.
Et pourquoi? Parce que, oui, c'est de voir votre visage, d'être vraiment le personnage principal qui pouvait être...
Oui, j'étais convaincue par son film, parce que le thème n'est pas très, très abordé et que c'est important que le public connaisse sa situation plutôt que d'écouter les médias habituels sur la question des MNA, des mineurs non accompagnés, qu'on prend pour des délinquants, quoi. Moi, c'est vraiment une autre expérience que j'ai. Donc, Marion souhaitait apporter ce regard-là du point de vue des jeunes, quoi, qui sont souvent en détresse. Et donc moi, j'aurais préféré qu'il y ait plusieurs personnages principaux. J'ai pas du tout envie de là me mettre en avant, regarder comme je fais des choses bien. Enfin, c'est pas du tout le but. Donc c'est une sorte de comment dire, c'était dur à accepter. J'ai encore du mal même à assumer, en fait, hein. J'avoue. Ça va, je dors mieux là maintenant, mais j'ai eu du mal à assumer. Maintenant, comme c'est un thème et un combat que je mène depuis très très longtemps, je suis quand même ravie et je remercie Marion d'avoir aujourd'hui la possibilité d'en parler librement, finalement, d'eux. Donc j'ai accepté pour ça, en fait, hein, pour continuer d'être leur avocate à travers le film et sa sortie, quoi. Voilà.
Autant les associations de soutien aux personnes exilées sont bien identifiées sur la région rennaise, je pense à la CIMAD qu'on reçoit souvent ici, aussi à des associations comme Utopia 56 ou encore le MRAP, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Autant c'est peut-être moins identifié qu'il y a des avocats spécialisés sur ces questions-là.
Oui, puis il n'y en a pas beaucoup, en fait. Moi, j'ai commencé à m'intéresser, j'avais déjà le diplôme d'avocate, mais je travaillais pour une organisation de défense des droits humains à Paris. Et j'ai découvert leur situation il y a 20 ans, dans les rues de Paris et les rues de Calais. Et donc, quand je suis venue m'installer à Rennes en tant qu'avocate en 2005, J'ai eu une démarche active, en fait, pour aller vers ces jeunes-là. Voilà. Parce que j'avais noté que bah, si on ne va pas vers eux, effectivement, ils restent dans la rue, ils cherchent à aller dans un autre pays, ils continuent leur fuite incessante, en fait, depuis leur pays d'origine. Et c'est justement quand ils ne sont pas pris en charge, à tout point de vue, qu'il ne reste plus que la rue. Et la rue, c'est tous les dangers. C'est aussi les dangers d'une exploitation sexuelle. Et de toutes sortes d'entrées dans la délinquance, quoi. Donc, moi, j'essaye de les prendre un par un. Et puis mais ils ne sont pas compliqués à convaincre. Il n'y a pas besoin de les convaincre. Aujourd'hui, je ne vais pas les chercher. Ils viennent me voir. Hein. Ils viennent tout simplement me voir en me disant on a besoin d'être protégés, quoi.
Qu'est-ce qui peut les empêcher ou les freiner dans le fait de faire la démarche pour aller voir un avocat? C'est le rapport à l'institution aussi.
L'ignorance, déjà. L'ignorance. Ils ne savent pas forcément qu'ils peuvent le faire. On a mis du temps à obtenir que l'aide sociale à l'enfance leur notifie leur droit de contester la décision par laquelle l'aide sociale à l'enfance les a considérés comme majeurs. Donc il y a d'abord l'ignorance, il y a aussi le désespoir, c'est-à-dire que certains sont vraiment traumatisés, hein. Ils ont souvent subi des violences par les adultes. Alors si, en disant, voilà, moi je suis jeune, je suis personne en France, si on leur dit, mais t'es un menteur, après ça peut être compliqué de retrouver la confiance avec l'adulte. Ils vont peut-être se réfugier ailleurs que chez... Et il y a la solidarité entre eux, quoi. Mm. C'est-à-dire qu'il y a le bouche à oreille. Il y a entre migrants et entre jeunes, voilà. Et aujourd'hui, il y a Utopia 56 qui est bien installée. C'est la seule antenne mineure d'accompagnée en France. Ils font un travail formidable. Ils font des maraudes, etc. Donc eux, ils vont les repérer dans la rue. Mm. Voilà. Donc aujourd'hui, à Rennes... c'est moins compliqué de m'identifier moi, mais je ne suis pas la seule, hein. On est plusieurs avocats à Rennes à les aider, à les soutenir. Voilà, mais ce n'est pas non plus beaucoup d'avocats, ça c'est clair.
Vous êtes avocate au barreau de Rennes depuis 2005, après des études déjà dans le champ de la protection des droits humains. Vous êtes deux dans le cabinet où vous êtes ici à Rennes. Très concrètement, quelles sont les situations, au-delà du public des mineurs non accompagnés, les situations des personnes exilées qui poussent la porte de votre cabinet? Beaucoup questions de demande d'asile, non?
Alors, il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Il y a aussi des gens qui sont en demande de titre de séjour, de régularisation, qui sont en France depuis longtemps, qui travaillent, qui sont bien insérés et qui cherchent à régulariser leur situation. Mais oui, la demande d'asile, ça fait partie vraiment du cœur de mon travail, quoi. Donc le public que je reçois, c'est la plupart du temps des personnes très très marquées par leur vie au pays d'origine, les persécutions subies. De tous ordres, hein. Ça peut être familial, ça peut être social, ça peut être politique, voilà. Et de plus en plus, et surtout, je dirais, les mineurs, ils sont doublement traumatisés par leur exil, par le voyage, hein, qui est de plus en plus dangereux. Beaucoup meurent dans le désert. Beaucoup des jeunes que je reçois ont perdu, je sais pas, un père, une mère. Des proches, un amoureux, une amoureuse. Donc de plus en plus, ils sont vraiment dans un état de choc et de choc culturel, interculturel en fait, d'acculturation quand ils sont arrivés, quand ils arrivent ici.
J'allais vous demander si c'était un public avec des spécificités. Il y a évidemment celui du traumatisme, oui, de l'exil qui est porté. On imagine aussi souvent un public en situation de précarité, avec une possible barrière de la langue. Tout ça, ça vous a amené à vous former pour les accueillir au mieux.
Oui. C'est les mineurs, hein, non accompagnés, qui m'ont poussé à me former effectivement en psychologie interculturelle. J'ai fait une formation à Paris 8 parce que j'avais besoin d'outils théoriques, intellectuels, pour trouver une façon d'aller vers eux, de leur parler un langage qu'ils comprennent. Je ne pouvais pas attendre qu'ils viennent vers moi parce qu'ils sont trop jeunes, trop pris dans leur propre culture, sans recul sur leur propre culture, pas toujours en tous les cas. Donc il a fallu que je me forme, oui, pour pouvoir entrer en confiance avec eux et qu'ils aient envie de me confier leur histoire. Parce qu'il peut leur arriver de ne pas dire la vérité sur leur histoire tellement elle est honteuse ou tellement ils en ont peur. Ou parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'adulte qui est en face d'eux pour les écouter. Donc c'est toute une démarche effectivement qu'il faut avoir conscience de faire pour les inviter, les inciter à se confier en confiance. On ne peut pas être un bon avocat pour moi si on n'a pas réussi à obtenir la confiance de la personne qu'on défend. Donc voilà, ce moment est important. Donc je prends le temps d'instaurer une confiance avant d'engager des questions qui sont souvent douloureuses sur leur parcours.
Ces mineurs non accompagnés, ils sont donc au cœur de ce film Un pays de papier à découvrir ce week-end au ciné TNB, donc le samedi 3 février à 19h. Les mineurs non accompagnés, alors en Ille-et-Vilaine, ils seraient 900. Il y a une augmentation des chiffres officiels, en tout cas du nombre de mineurs non accompagnés, souvent réduits, vous l'avez évoqué, à des faits de délinquance sur le territoire rennais. Ça a notamment été le cas en 2021, particulièrement sur cette année pour la ville de Rennes. On peut parler de la procédure. Ils viennent donc vous voir quand la minorité leur a été refusée. Quelle est la nature de cette procédure? Combien de temps ça dure?
C'est très très long. C'est ça le problème, même si le juge des enfants actuellement fait des efforts pour réduire les délais. De toute façon, vous connaissez ici le sinistre, dans lequel la justice se trouve depuis plusieurs années, même s'il y a des efforts qui sont faits là. Donc, il n'y a pas assez de monde au tribunal, il y a assez de monde nulle part. Même au département, il n'y a pas assez de monde, pas assez de moyens. Donc, moi, je dois saisir le juge des enfants, mais pour le saisir, il faut que je montre patte blanche, c'est-à-dire que les jeunes soient en mesure de prouver qui ils sont. Donc c'est là que le monde associatif et solidaire intervient. Toute cette période, il ne faut pas les laisser à la rue. Donc il faut leur trouver un hébergement. Utopia 56 fait ce travail-là, mais pas seulement Utopia 56, d'autres associations le font. Et puis même des privés, des personnes qui sont touchées par un gamin qu'ils rencontrent à la gare en train de pleurer, qui est tout seul, un soir. Donc il y a vraiment de la solidarité. Moi je ne tiendrais pas le coup sans cette solidarité, à vrai dire. Mmh. Et solidarité aussi entre jeunes, entre ressortissants des mêmes communautés, pour essayer de retrouver le contact de la maman, d'un papa, qui sont injoignables. Il n'y a pas toujours les réseaux sociaux, il n'y a pas toujours même la 4G, l'électricité, dans les villes ou les villages d'où ils viennent. Donc il faut retrouver un contact sur place qui soit en mesure de faire établir en toute confiance, de façon fiable, leur état civil. Et après, faire acheminer. Donc c'est un vrai parcours du combattant, ça peut les décourager. Donc il faut sans cesse, avec les associations, les gens qui les entourent, leur redonner un peu d'espoir. C'est des mois d'attente qui sont très difficiles. Ils sont dans une grande précarité, ils sont jeunes. Ils sont souvent avec, malgré des traumatismes, une capacité incroyable de renaissance, ces jeunes-là, parce que je pense que les plus fragiles ne tiennent pas le coup dans l'exil. Ils meurent sur le parcours, quoi.
Un mot sur les injustices subies. Quand il n'y a pas ces documents pour attester de la minorité de la personne exilée, on a encore recours à des tests osseux, y compris sur notre territoire.
Alors
aujourd'hui,
oui, même quand on a des actes d'état civil, le juge peut ordonner, à Rennes c'est le cas, des examens osseux. Ces examens aujourd'hui sont réalisés par une équipe pluridisciplinaire de l'hôpital, l'Institut médico-légal. Donc là, il y a une confiance professionnelle déontologique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc par principe, de toute façon, tous les comités d'éthique, académies de médecine, etc., critiquent ces tests osseux sur leur manque de fiabilité. Les tables de référence servant aux tests osseux aujourd'hui sont des tables qui ont été faites, créées sur une population caucasienne, donc blanche, dans les années 30 et 50. On les compare à des jeunes guinéens d'aujourd'hui qui, à 16 ans, font 1m90. Donc, c'est pas juste. Voilà. Le système en lui-même n'est pas sérieux, n'est pas fiable. Donc, les médecins qui acceptent de faire cela disent toujours à quel point ça n'est pas fiable, à quel point il faut y mettre des réserves, à quel point on ne peut pas aujourd'hui scientifiquement déterminer l'âge de quelqu'un. Mmh. Voilà. Il peut y avoir une marge d'erreur parfois de 5 ans. Moi, j'ai déjà vu ça, des très grosses marges d'erreur. Donc le juge le sait. Et c'est pas un élément déterminant non plus pour le juge. Mmh. Mais ça existe encore. Dans d'autres pays de l'Union européenne, ça a été parfois aboli, parce que ça n'est pas assez fiable.
Mais la décision prise a un impact déterminant sur l'avenir de ce jeune que vous accompagnez. Marion Boé, réalisatrice du film Un pays de papier, comment est-ce que vous avez pensé votre film pour raconter ce combat, avec peut-être la contrainte de ne pas montrer les visages des personnes accompagnées par Mélanie Leverger?
Oui, c'est ça, parce que comme c'est des mineurs, j'avais pas d'autorisation parentale possible. Donc l'idée, c'était de les filmer de dos dans les entretiens que Mélanie faisait dans son bureau. Donc, et puis je leur demandais toujours l'autorisation avant, s'ils avaient des questions, s'ils avaient envie finalement de pas être filmés. Je respectais tout à fait ça. Et puis après, je me mettais un peu au fond du bureau, pour être assez discrète. Et du coup, j'étais seule dans ces moments-là. Et puis après, il y avait quelques autres tournages en dehors du cabinet.
Des temps plus collectifs aussi, parfois, entre collègues, je crois.
Des temps, ouais, avec les collègues, avec Utopia 56 aussi, qui est important dans le soutien à ces jeunes exilés. Et puis, parce qu'ils sont très présents aussi pour les entretiens des jeunes au cabinet. Et voilà, en formation avec eux. Et puis après, dans d'autres aspects de la vie plus personnelle de Mélanie.
En tant qu'avocate, Mélanie Leverger, vous dites ne pas réparer les injustices, mais essayer de les réparer. On arrive à la question de l'hébergement, puisque le manque de moyens pour accompagner ces mineurs non accompagnés, elle est aussi visible dans le champ de l'hébergement. Il y a un manque de places criant. Ici, dans le département, de nouveaux sites vont être ouverts par le département donc pour accompagner ces jeunes, notamment à Saint-Jacques-de-la-Lande cette année en 2024. Vous avez vous-même participé à l'effort en accueillant parfois des mineurs non accompagnés à votre domicile, comme des citoyens le font, quoi.
Oui, mais ça a été long de s'affranchir de ma fonction d'avocate. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Enfin, je le faisais avant d'exercer la profession, déjà. Mais une fois que je suis rentrée, j'étais inscrite au barreau, c'était plus compliqué. Voilà, à un moment, je me suis trouvée comme n'ayant pas le choix. C'était des jeunes qui étaient en danger, vraiment trop en danger, trop sur un point de bascule, presque un précipice. Donc j'ai senti pour certains que si là, ils ne trouvaient pas quelqu'un qui leur tendait la main plus concrètement que « je te donne un rendez-vous la semaine prochaine à mon cabinet pour voir si tu as des actes d'état civil », voilà, à un moment donné, c'est la non-assistance à enfants en danger, en fait. Donc, j'ai toujours pris soin de prévenir mon bâtonnier pour me préserver. Mais oui, l'accueil s'est fait par notamment un jeune, Charlie. J'ai commencé avec Charlie, qui est à Perpignan actuellement. Et les expériences ont été si riches pour mes enfants, pour ma famille, même mes parents, mes sœurs et frères, enfin tout le monde, que ça a donné envie à d'autres. Des amis se sont mis à héberger, voilà. Ce sont des expériences d'échange personnel, interculturel, qui sont très riches. Voilà, on peut avoir peur au début. C'est normal d'amener un étranger chez soi, surtout quand on est des enfants, etc. C'est pas une décision anodine, mais je la regrette absolument pas. Et du coup, après, j'en ai hébergé sur des périodes plus ou moins longues. Ça a pu être 3 ans pour Charlie, et ça a pu être 8 mois pour d'autres, et puis 2 mois pour d'autres. Enfin, voilà, en fonction des besoins et en fonction aussi de la place que j'ai chez moi, parce que c'est pas toujours simple.
Et si on revient à votre casquette d'avocate, dans quelle proportion est-ce que vos clients, on leur dit qu'ils sont en partie des mineurs non accompagnés, voient leur démarche aboutir ?
Ça dépend tout à fait du magistrat chargé des affaires. Donc pendant le tournage du film, les 3 ans de tournage à peu près, on était dans une période très difficile au tribunal judiciaire de Rennes. Le juge des enfants était très très dur. On n'y arrivait pas. Il fallait aller en appel pour obtenir gain de cause. Donc c'était des périodes encore plus longues pour les jeunes qui se désespéraient parce que pas scolarisés pendant ce temps-là. Ceux qui sont bons en foot ou en d'autres sports, pas le droit d'avoir de licence. Enfin, vraiment, à part ce que leur proposent les champs libres, les cours de français, des clubs amateurs, c'est compliqué de les occuper en journée, quoi. Et donc, depuis un an, le juge a changé et on a une juge qui fait du droit. Donc nos requêtes aboutissent beaucoup plus. Donc voilà, ça nous fait beaucoup de bien à tous. Voilà.
Mélanie Leverger et Marion Boé pour présenter le film « Un pays de papier ». Le public pourra le découvrir, ce film documentaire, sur TVA Rennes, lundi 8 avril, la semaine prochaine donc, à 21h. Notez ça dans vos agendas.
Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle végétale. Une carte postale. Une carte postale de la campagne. Regarde le ciel comme elle est belle, cette carte postale de Michel. Avec un mot pour toi, pour moi, pour nous. Des mots sur des choux, partout des coucous. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle matinale. Ah, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle me donne le moral? cadeau de Noël avec deux ailes pour deux personnes, Isabelle. Une bonne nouvelle pour toi, pour moi, pour nous. C'est chouette, les hiboux, girouette, coucou. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses de penser à autre chose. Si quelque part en France, si quelque part la chance ne passait pas. Le ciel comme il est mieux sous le soleil de Mathieu, comme il est mieux pour toi, pour moi, pour nous. Du bleu et c'est tout, le reste plus du tout. Des vœux tout à coup, un peu, beaucoup. De toute façon, c'est dans l'ordre des choses de penser à chose. Si quelque part en France, si quelque part la chance ne passait pas.
Mathieu Bogarts avec le titre « Une bonne nouvelle », un morceau que j'ai choisi pour vous et que vous pouvez retrouver sur l'album « Michel », très bon disque, sorti en 2005 sur le label Tôt ou Tard. Le dernier album de Mathieu Bogarts, c'était en 2021. J'ai calculé que s'il en sortait un tous les 3-4 ans, bien normalement il y en a un qui est en ce moment dans les cartons et qui devrait sortir dans les prochains mois. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Avant de se quitter, vous le savez, on termine toujours avec une recommandation du jour. C'est parti. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre à Rennes ou près de Rennes, aussi parfois des conseils de lecture, de podcasts ou de documentaires. Aujourd'hui, on annonce les Journées européennes des métiers d'art. C'est du mardi 2 au dimanche 7 avril partout en France. Dans la région rennaise, j'ai compté 8 propositions à retrouver dans le détail sur le site journeesdesmetiersd'art.fr. Alors, dès cette semaine, il se passe des choses, notamment le mercredi dans l'atelier des mosaïques de la Vilaine et l'atelier Le La, plutôt sur de la gravure et du gaufrage. Ces deux ateliers ils se situent au nord de Rennes. Également dans le quartier Clenay, il y a l'atelier 1, 2, 3 Sommeil qui présente son activité de sérigraphie artisanale et de lettering. Il y a aussi une visite et animation autour du tournage, cette fois du côté de Champy avec la graphiste En Terre. Et puis ce week-end, encore plus de propositions, notamment à la cité Pierre Louaille, où le public pourra rencontrer plusieurs artisans du vendredi au dimanche, sur de la céramique, des bijoux, du métal. Le mur habité de la Courrouze participe aussi à cet événement le samedi et le dimanche. Là, ce sont trois artisans qui présenteront leurs créations maroquinerie, reliure et abat-jour. Et sur ces deux jours, il y a aussi la mairie de Passé et le collectif Les Femmes Solaires qui met en lumière 16 artisans et artisanes qui travaillent autour du bois, de l'osier ou encore du verre. On termine avec l'événement coup de cœur des organisateurs de ces Journées européennes des métiers d'art. C'est la coopérative Comme un établi qui est installée dans la zone d'activité nord depuis 2021 qui ouvre ses portes au public donc samedi 6 et dimanche 7 avril. 11 artisans et artisanes métiers d'art seront présents pour à la fois présenter des stands de métiers, proposer des temps de démonstration, le public pourra participer, et puis des conférences seront aussi organisées. Je vous laisse donc avec un extrait du reportage qui avait été consacré à Comme un établi, c'était au moment du lancement en 2021.
Bonjour, bonjour. Alors donc moi c'est Benjamin Danjou, donc je suis un des cofondateurs avec Edwin, mon pote d'enfance. Et donc, comme un établi, c'est un ancien garage Peugeot de 1200 m² qu'on a transformé en tiers-lieu. Alors, tiers-lieu, c'est un peu, ça veut tout rien dire, c'est un peu les espaces de vie et de travail alternatifs modernes d'aujourd'hui. Donc il faut se dire que la semaine, c'est un endroit où on va trouver une vingtaine d'artisans qui viennent travailler ici. Donc ils payent une sorte d'abonnement pour accéder au lieu. Et ils viennent travailler dans les milieux du bois, du métal, du textile, de la création artisanale. Donc une vingtaine d'artisans qui cohabitent la semaine. Et après, soir et week-end, on ouvre aux particuliers. Donc les gens qui habitent en appart et qui veulent bricoler et qui n'ont pas d'espace, qui ne veulent pas mettre de la sciure dans leur salon, et bah, typiquement, ils peuvent venir bricoler ici en toute sécurité et avoir des conseils. Puis c'est un lieu aussi où on sensibilise à l'artisanat, montrer que c'est des beaux métiers, que tu n'es pas obligé de passer forcément par une école de commerce, devenir youtubeur, etc. Voilà, quand tu questionnes les jeunes aujourd'hui, les études, c'est souvent ça, c'est souvent des rêves qui reviennent. Et moi, je sais qu'à mon époque, faire un CAP, j'étais bon à l'école, mais les profs, ils ne m'auraient jamais dit d'aller faire un CAP, par exemple, je ne sais pas, charpente ou menuiserie. Ils m'auraient dit que j'aurais pu un peu gâcher mes compétences. Mmh. Alors qu'au final, je suis un ancien cadre et j'aurais adoré faire ça, quoi. Mmh. Donc, il y a toute une démarche, une sensibilisation à faire là-dessus. C'est ce qu'on fait aussi en décloisonnant le lieu et en accueillant des étudiants, des jeunes, un peu pour faire découvrir le monde de l'artisanat.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.